on. We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
h 30 en ce vendredi 6 septembre. Bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Certains auditeurs m'écrivent, mais il n'y a plus de Radio X-Files ce vendredi. Non, non, on commence seulement une demi-heure plus tard. On perdure le plaisir encore pendant 60 minutes jusqu'à 20h30 avec vous. Et toujours à la barre de l'émission, M. Christian Page. J'espère que tu vas passer une super belle semaine, Christian.
Ah, beaucoup de lectures. Hein?
Beaucoup de lectures, oui.
Oui, j'ai mon... Je me fais une pub, là.
C'était... Ah oui?
Ici, le moment de la pub. Le 16 octobre va sortir mon deuxième, le tome 2 de Les Tueurs de l'Occulte. Donc, j'ai reçu le montage, qui n'est pas le montage final, mais disons le montage, pré-montage final, si je pourrais dire, là, du livre avant sa sortie, avant qu'il soit envoyé à l'imprimerie. Là. Donc, il faut tout relire là, de la première à la dernière page, noter est-ce que la photo doit être montée, baissée, poussée à gauche, à droite.
OK, on y va dans les fins détails à ce point-là.
Oui, on a dit ça. Donc, tous les textes ont été déjà relus, corrigés. Là, on en est à la partie montage graphique. À quoi va ressembler le livre lorsqu'il va être sur les tablettes? Et là, ben, évidemment, est-ce que la photo est au bon endroit? Est-ce que la description de la photo va avec la bonne photo? Donc, c'est très, très fastidieux. Donc, ceux qui veulent, qui ont envie de se lancer dans le rôle de l'écriture, ben, sachez que ça dépasse le simple fait de s'asseoir derrière son ordinateur et d'écrire un manuscrit. Après ça, il y a tout le contexte de la mise en page, la révision, puis tout ça.
On m'a donné
là, j'en suis là-dedans cette semaine.
On m'a donné un truc pour me corriger quand j'étais à l'école, de commencer le texte à l'envers, pour s'assurer de ne pas avoir une fatigue oculaire, puis de vérifier si on n'a pas fait des coquilles ou des fautes. Est-ce que tu te prêtes à cet exercice-là ou tu as vraiment quelqu'un va réviser au complet ton livre?
C'est amusant parce qu'on le sait maintenant dans les sciences cognitives, puis tu as peut-être vu ce test passer, le test passé, ou bien sous forme de test, ou un peu comme un amusement sur des pages comme Facebook et
oui.
autres. Tu sais, c'est le genre de texte où il y a en réalité, le texte est complètement écrit, mais 80% des lettres ont été remplacées par des X, par exemple.
Ouais.
Puis là, au début, tu commences, tu sais... au début, c'est très difficile à lire. Là, il y a un S... Il y a un X, 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 après ça, deux lettres, trois X. Puis là, au début, tu lis, tu sais, c'est comme si vous arrivez à lire ce texte et que votre cerveau réussit à combler les espaces. Tu sais, très rapidement, ouais. ton cerveau réussit à remplacer les lettres manquantes par les lettres qui doivent aller là et qui sont en fonction de ta culture, de ta langue maternelle. Et ça nous montre bien la mécanique. Hein. Notre cerveau lit ce qu'il croit voir, pas forcément ce qu'il voit.
Oui.
Et ça, c'est notre erreur. Quand on écrit un document, on lit ce que l'on croit avoir écrit, mais très souvent, ou bien il y a une faute d'orthographe, ou on a oublié, par exemple, un article, là, au lieu de marquer le bateau, ben on passe du mot bateau, il n'y a pas de le entre les deux, mais on a beau lire le texte 10 fois, on a toujours l'impression que...
Le
est présent, d'où l'importance d'avoir plusieurs personnes qui revisitent le même texte. Mais c'est vrai qu'en même temps, il faut toujours se méfier. Moi, je suis l'auteur du texte, donc je sais ce que j'ai écrit, donc je sais que je suis vulnérable à commettre ces erreurs-là.
Ouais, tu sais ce que tu voulais dire, donc...
Oui, c'est ça. Fait que je lis ce que je crois avoir écrit, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, mon système, c'est quoi ce mot-là? Oups, il manque la moitié du mot.
Je suis contente de savoir que je ne suis pas la seule qui fait ça. J'ai l'impression que l'ère numérique n'aide pas aussi parce qu'on veut texter ou écrire frénétiquement. Fait qu'on dirait que le cerveau fait des escalades de syllabes.
Oui, puis c'est vrai que... Puis moi-même, j'ai tendance à faire ça parfois dans des conversations. Puis c'est sûr qu'on n'aura pas un professeur qui va nous donner un coup de règle sur les doigts. Là, mais,
plus maintenant.
Non, plus maintenant. Mais c'est vrai que, comme par exemple, quand on est dans le vif d'un échange, par exemple, sur Facebook, ou bon, moi, c'est le seul média social que j'utilise, mais il y en a d'autres, là, TikTok. TikTok et autres que moi je n'utilise pas, que je ne connais pas, mais on est dans le vif d'un échange. Donc, on écrit, puis rapidement, on pèse sur envoyer, puis l'autre nous répond. Mais après ça, quand tu revois le fil de la conversation, là, tu te dis, mon Dieu, que j'ai manqué une belle occasion d'accorder mon verbe.
Oui, c'est
J'aurais
ça.
dû mettre un S ici. Tu sais, là, on se rend compte qu'on connaît. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas personne ou avec une règle qui va nous donner des coups sur les doigts parce que c'est souvent un peu le propre aussi de ces conversations spontanées sur les médias sociaux. Mais en même temps, j'essaie, le tant que faire se peut, quand on n'est pas dans l'empressement d'une conversation, j'essaie de me relire un peu avant de peser sur envoyer, là, pour m'assurer que les accords ont été faits puis que l'écriture a été. Les fautes d'orthographe ont été corrigées. Mais c'est vrai que je le fais, puis il y a plein d'autres de gens qui le font aussi, là, tu sais, malheureusement, d'écrire rapidement un premier jet de notre pensée et de l'envoyer immédiatement, là.
On va te souhaiter un bon dernier week-end de sprint, de révision, parce que c'est dans une dizaine de jours que Tueur de l'Occulte 2 sort en
Non, il
librairie.
sort le 16 octobre.
16... Ah!
Donc, on a jusque.
Je ne sais pas pourquoi je mêle septembre et octobre, ces temps-ci, là, épouvantable. Le temps passe trop vite, fait que tu as 1 mois et 10 jours encore.
Ouais, mais on n'a pas 1 mois et 10 jours parce qu'à partir du moment où. Il faut, là, au moment où l'imprimeur, lui, a besoin d'un 2 à 3 semaines
OK.
à partir du moment où il y a le fichier. Jusqu'au moment où l'ouvrage va être sur les tablettes. C'est sûr que nous, comme moi, comme l'auteur, je vais probablement, si on envoie tous les documents à la fin du mois de septembre, j'ai l'impression que dans mon cas, mettons qu'on enverrait la 3e semaine de septembre, ben, probablement que la 1ère semaine d'octobre, je vais avoir mes propres copies du livre.
Wow, OK.
Mais après ça, il faut c'est sûr qu'une fois que le livre, quand je dis qu'il sort en librairie le 16 octobre, il faut qu'il soit imprimé avant. Donc, une fois qu'il est imprimé, il doit être envoyé aux distributeurs. Les distributeurs doivent établir leur feuille de route. Les librairies dans lesquelles ils vont les distribuer, il y a toute une mécanique derrière
Ouais.
ça, là.
Mais ça s'en vient.
Oui, c'est une chaîne. Mais la date établie, c'est le 16 octobre. Puis, difficile pour moi de l'oublier parce que quand on avait figuré plusieurs dates et quand on a dit ben, le 16 octobre, pourquoi pas le 16 octobre? Ben, je me suis dit, tiens, ça va être facile à retenir parce que dans ma culture à moi, tout le monde sait que j'ai une fascination pour les crimes de Jack l'Éventreur. Or, le 16 octobre, c'est la date à laquelle probablement l'Éventreur a envoyé la seule et unique lettre qu'il a écrite de
Oh,
sa main.
OK.
On sait que durant la période, les crimes de l'Éventreur ont été commis à l'automne de 1888 à Londres, pour ceux qui l'ignoraient. Mais on sait que durant cette période, la police a reçu plein de lettres, en fait plus de 300 lettres qui étaient toutes signées Jack l'Éventreur. À partir de la première, il y en a eu une qu'on sait aujourd'hui être une plaisanterie d'un journaliste, et cette lettre était signée Jack l'Éventreur. Mais ça, c'est une plaisanterie d'un journaliste. Mais à partir du moment où cette lettre s'est retrouvée dans la presse, des petits coquins un peu partout en Angleterre ont décidé aussi de mettre leur épaule à la roue, puis ils se sont mis à envoyer des lettres à la police pour se moquer d'eux. T'sais. Et chacune de ces lettres était signée Jack l'Éventreur. Donc finalement, la police a reçu, durant l'automne 1888, elle a reçu plus de 300 lettres, toutes signées Jack l'Éventreur, toutes signées par un auteur différent aussi, parce qu'il n'y avait pas un Jack l'Éventreur écrit par la même main. C'était clairement 300 personnes différentes. T'sais. Puis il y avait des lettres qui étaient ridicules. On envoie une lettre à la police. Oui, si je conseille à la police la prochaine fois de se promener dans les rues de Londres, de recouvrir leurs chaussures avec du tissu pour qu'ils fassent moins de bruit, parce qu'ils avaient des bottines, genre bottines militaires, qui faisaient du bruit. Ou des conseils, je suis Jack l'Éventreur, je vous conseille de vous déguiser en femme pour votre prochaine tournée. T'sais, tu vois un peu le genre de plaisanterie. On aimait se
Ouais.
payer un peu la tête des autorités. Mais dans tout ce. Cette période où la police recevait des lettres qu'elle ne prenait pas vraiment très au sérieux, mis à part peut-être la première, les autres lettres, on a vite compris qu'il s'agissait de plaisanter, mais il y en a une qui est très particulière et elle a été reçue le 16 octobre. Il y avait un comité de vigilance qui s'était formé dans les rues de Londres parce qu'on disait, on accusait la police de s'occuper davantage des quartiers aisés alors que les crimes étaient commis dans des quartiers
Ouais.
défavorisés. Alors, des groupes de militants s'étaient formés. Et l'un d'entre eux, un grand gueule, non, qui essayait en même temps de se faire un peu du capital politique, un type qui s'appelait Georgie Lusk. Donc lui, dès qu'il avait l'occasion, se plaignait à la presse, disait « Ah oui, mais si ces crimes avaient été commis ailleurs, dans le West End, l'assassin aurait été arrêté. Regardez, là en ce moment, il n'y a pas de policiers dans les rues du East London. Jack l'Éventreur peut frapper à n'importe quel moment. » Donc il avait organisé autour de lui, il avait regroupé autour de lui des gens qui, avec des espèces de matraques improvisées, se promenaient la nuit dans les rues et questionnait toutes les personnes qui pouvaient paraître un peu louches. D'où viens-tu? Où tu vas? Qui es-tu? Donc, ce genre de truc-là. Et George Lusk avait dit à la presse, il dit, nous, on va réussir là où la police aurait échoué. Donc, pour nous, là, l'arrestation de Jack l'Éventreur n'est plus qu'une question de jours. Et le 16 octobre, ce fameux George Lusk reçoit chez lui une boîte enveloppée d'un papier ciré taché de sang. Donc, il défait les cordons, défait le papier, l'emballage. Et à l'intérieur, il y a une petite boîte. Et dans la boîte, il y a la moitié d'un rein humain.
Oui.
Et il y a une note qui accompagne cette boîte qui dit « De l'enfer ». Elle commence comme ça, « De l'enfer ».« Cher Monsieur Lusk, vous trouverez ci-joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. Attrapez-moi si vous le pouvez, Monsieur Lusk. » De toutes les lettres reçues à cette époque, c'est la seule qui n'est pas signée Jack l'Éventreur. Un peu comme si l'auteur avait voulu se distancer de ce fameux mythe du Jack l'Éventreur. Et qui plus est, évidemment, la médecine médico-légale en 1888 n'était pas la médecine médico-légale d'aujourd'hui.
Non, c'est ça.
Donc, on ne pouvait même pas déterminer le sexe. Hein. À partir du moment où on avait un organe, on ne pouvait pas déterminer si c'était un rein humain. On pouvait dire si c'était un rein humain, mais on ne pouvait pas dire si c'était le rein d'un homme ou d'une femme. Même encore aujourd'hui, avec le constat visuel,
ouais, ça doit
difficile.
Être dur. Hein?
Mais évidemment, on ne pouvait pas aller au-delà de ça. Et ce que l'on sait, par contre, c'est que l'une des victimes de l'Éventreur, la quatrième victime de l'Éventreur, une certaine Catherine Eddowes, qui avait été assassinée dans Mitre Square 2 semaines plus tôt, on sait que l'assassin lui avait enlevé un rein. Et il avait laissé, quel que soit notre gabarit, hein, l'artère rénale est à peu près longue de 3 pouces chez à peu près tous les individus. Que l'on mesure 1,60 m ou qu'on mesure 1,90 m, l'artère rénale, généralement, mesure à peu près 3 pouces.
Okay.
Dans le cas de Catherine Eddowes, quand l'assassin lui a enlevé son rein, il a coupé l'artère rénale. Donc, on avait une partie d'artère rénale d'une longueur de 2 pouces dans le corps de Catherine Eddowes. Et dans la moitié de rein que George Lusk a reçu chez lui, il y avait un morceau d'artère rénale de 1 pouce, ce qui fait grosso modo 3 pouces si on associe les deux ensemble. Mais c'est à peu près le plus loin qu'on peut aller. Donc, on peut supposer... Il y avait aussi un autre détail. Catherine Eddowes était atteinte d'une maladie qu'on appelle la maladie de Bright, qui est une maladie qui est souvent liée à l'alcoolisme, qui est un affaissement des tissus rénaux à cause de l'alcool. Et dans le cas du rein envoyé à George Lusk, le rein qui avait été envoyé, les tissus étaient gorgés et semblaient souffrir de la maladie de Bright. Mais si on prend un rein et on le place dans du formol ou dans l'alcool, comme on faisait souvent à l'époque, comme dans des écoles de médecine, le rein aurait présenté les mêmes caractéristiques.
Ouais.
Mais donc, à partir de là, on a des éléments qui nous disent que c'était peut-être le rein de Catherine Eddowes. Mais bref, cette fameuse lettre dite qui commence par « de l'enfer », c'est devenu un peu une marque de commerce. Hein. Même le film qui avait été fait il y a quelques années, qui peut-être en vedette Johnny Depp, hein, le titre du film, c'est « De l'enfer hein, »,« From hell ». C'était le titre de cette fameuse lettre envoyée à George Lusk. Donc, reçue le 16 octobre, et donc c'est la date à laquelle on va retrouver le livre « Les tueurs de l'occulte », tome 2 sur les tablettes.
J'ai aimé sur la page Facebook Inexpliqué, qui est une des nouvelles pages que tu as et que les auditeurs, justement, et les gens qui te suivent depuis des années peuvent aller échanger, partager des archives. Il y a quelqu'un qui a presque toute ta collection de livres, Christian.
Oui,
il y en aura un plus à ajouter le 16 octobre.
Ça, moi aussi, j'ai vu ça. J'ai dit, il m'a fallu même quelques secondes pour dire, OK, lesquels qui manquent, là, avant de lire son texte. Hein, il dit, bon, voilà, il manque Dossier Mystère 2, puis il manque L'enquêteur du paranormal 2, et également L'encyclopédie du crime.
Oui.
Mais quand j'ai regardé les livres comme ça, je me suis dit, OK, lesquels il manque, parce qu'il y a vraiment, c'est une belle collection, là, il les a à peu près tous.
Ah, vraiment, t'en as plus d'une douzaine à ton actif.
Ouais. En fait, j'en ai 14.
Oui.
J'en ai 14, incluant l'encyclopédie du crime, mais je considère un 15e dans la mesure où il y a des livres, un livre, entre autres, qui a été écrit sur les ovnis par un collègue français. puis dans lequel j'ai, ben, c'était pas sur les ovnis, mais ça, c'était sur l'étrange en général, qui s'appelait La Gazette Fortéenne, c'était le titre du livre. Et j'ai signé un très, très important chapitre à l'intérieur, okay. Donc presque la moitié du livre. Tu sais, donc,
ah, bon.
Donc, je dis, bon, j'en ai 14 officiels, 15, presque 15. Ouais, c'est ça. Fait que, là, puis là, il y a celui-là qui sort cet automne.
Je t'entends parler avec passion de Jack l'Éventreur. Et ce sera éventuellement, plus rapidement qu'on pense, un de nos suspects X. On aura l'occasion d'en reparler, mais je me concentre. Il est déjà rendu 19h45 sur les sujets ce soir. On a changé la formule en début de saison ensemble et on parle de l'actualité entourant les thématiques qu'on connaissait toujours avec Radio X-Files. Et la thématique de ce vendredi-ci sont les énigmes de l'histoire. Et tu vas nous ramener dans l'ère des dinosaures avec ton premier sujet.
Oui, en fait, c'est une très longue piste de dinosaures. Hein. C'est vraiment étonnant ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce que la science peut nous apprendre. En fait, c'est un article qui est paru dans la publication scientifique du Musée naturel du Nouveau-Mexique. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on a trouvé une empreinte de dinosaures qui fait 6000 km de distance. Alors là, tu te dis, mais c'est pas possible, 6000 km de distance. Et oui. Et là, bon, c'est triste pour les gens qui sont les tenants de la Terre plate. Là.
Ouais.
Mais quoi là ou non, c'est une série d'empreintes de dinosaures. Ce sont des théropodes, donc des dinosaures qui avaient un peu comme trois doigts à chacune des pattes. Là.
Okay.
Et cette série d'empreintes, en fait, c'est 260 empreintes, traces, qui ont été laissés à l'époque du Crétacé. Le Crétacé, c'est une très longue période qui était l'époque des dinosaures, qui s'est étirée là, à peu près entre 145 millions d'années et 66 millions d'années avant l'ère commune. Donc, jusqu'à la fin, c'est la dernière grande période qui a marqué l'époque des dinosaures. Et crois-le ou non, la moitié de ces 260 empreintes, l'une est du côté du Brésil et l'autre est du côté du Cameroun.
Hein?
Peux-tu imaginer ça? Et ce que ça nous dit, c'est que quelque part, il y a quelque chose comme 160 ou 150 millions d'années, des dinosaures ont traversé le lit d'une rivière avant que les continents se séparent.
C'est fascinant,
c'était à l'époque qu'on appelait ce méga continent. Il est passé par deux étapes, la Pangée, ensuite la Gondwana. Et cette époque-là, c'est l'époque de Gondwana, donc à l'époque, la deuxième grande séparation des plaques continentales. Et donc, on a un dinosaure ou un groupe de dinosaures qui ont traversé le lit de cette rivière avant que les continents se séparent. Et éventuellement, lorsque le Brésil et le Cameroun se sont séparés, ben, l'empreinte également, la trace s'est séparée. Et aujourd'hui, on en a une partie qui est du côté du Brésil et l'autre partie qui est du côté du Cameroun. Donc, c'est fascinant parce que non seulement ça confirme, si on avait encore besoin de le confirmer, la dérive des continents.
Ouais.
Mais ça nous montre que cette partie... C'était pas étonnant que certains animaux qui avaient vécu au Cameroun, qu'on retrouvait donc en Afrique, et qu'on ait retrouvé ces types d'animaux également en Amérique du Sud. Ce qui explique également probablement pourquoi il y a des... Puis là, je vais revenir là-dessus parce que la semaine prochaine, j'ai choisi une question des auditeurs à ce sujet-là, mais Il n'y a jamais eu de primates en Amérique du Nord. Hein, en dehors de l'espèce homo, là, les
ouais.
hommes, là,
okay.
Il n'y a jamais eu de singes, pas de gorilles, pas de singes, pas de petits ouistiti. Il n'y en a jamais eu en Amérique du Nord. Mais il y en a en Amérique du Sud, on en trouve jusqu'en Amérique centrale. On pense que quelque part, ces animaux-là, les descendants de ces animaux-là, probablement après lorsque la fin du Crétacé s'est produite, lorsque les continents, même si les continents avaient commencé à se séparer, des parties de continents pouvaient demeurer liées et qui ont permis à des premiers primates ou des petits animaux, des petits mammifères, de traverser d'un côté à l'autre et ainsi coloniser cette région-là de l'Amérique, donc Amérique du Sud et Amérique centrale. Mais c'est tout à fait fascinant.
Vraiment.
Et cette histoire-là, bien évidemment, on comprend que pour les paléontologues, c'est tout à fait extraordinaire de trouver cette série d'empreintes sur deux continents différents et à une distance l'un de l'autre de 6000 km.
Ça fait un voyage quand on regarde aujourd'hui, mais c'est fascinant justement d'observer le relief de l'Amérique du Sud puis de le coller mentalement.
Oui, on voit, si on prend effectivement une carte, une map monde, une carte du monde, puis on découpe les continents, ben on voit que l'Amérique du Sud réussit assez bien à se coller à l'Afrique. Là. On a réussi, c'est comme deux morceaux qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Là. Bien sûr, il faut quand même considérer l'effritement des côtes. Là. Oui. Mais on voit que ce sont deux continents qui correspondent assez bien l'un à l'autre.
Alors exact. On se dit aussi, ben oui, la vie a déjà été différente que ce qu'on connaît actuellement puis de ce qu'on est capable d'observer.
Oui. La grosse nouvelle cette semaine, en fait, c'est un article qui est paru dans le Newsweek. Et c'est un... Ben là, évidemment, je dis la grosse nouvelle parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Là. Donc, c'est paru dans le Newsweek et ça concerne une nouvelle étude sur le linceul de Turin.
Oh, OK.
Et ça, c'est un... Et bon... C'est la énième étude sur le linceul de Turin. Et visiblement, cette étude-là ne fera pas non plus... ne porteront pas à la satisfaction de tout le monde.
Là. C'est pas celle qui va marquer l'histoire, mettons,
non,
nécessairement.
Non, non, non. Mais parce que c'est un sujet qui est très polarisé, hein, l'histoire du linceul de Turin. De quoi on parle pour les gens qui nous écoutent? Le linceul de Turin, il est aujourd'hui conservé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, en Italie. Et c'est une longue pièce de tissu, hein, une pièce de lin qui fait 4,40 m de long par, grosso modo, 1,10 m de large. Et on y voit l'image fantôme, dorsale et ventrale, d'un homme qui est nu, les mains repliées sur le pubis, et qui porte également toutes les marques de la crucifixion. Alors, trous dans les poignets, une plaie au flanc, des marques de flagellation, marques également d'une couronne d'épines. Mmh. Donc, mais c'est une image fantôme. Là. Quand on regarde le tissu, on voit que le tissu... Essayons d'imaginer ça pour les gens qui ne l'ont jamais vu. Là. Mais imaginez un grand tissu jaunâtre, là, avec la patine du temps, là, qui a jauni avec le temps. Puis, il y a comme cette image-là qui est un peu en superposition, qui est un peu plus brunâtre, hein? Comme si, à cet endroit-là, les tissus avaient jauni plus fortement qu'ailleurs. Et c'est cette image du plus jauni qu'ailleurs qui est cette image de ce personnage que l'on voit sur le linceul. Donc, le linceul, pour beaucoup de gens, c'est comme dans l'histoire, on ne connaît aucun homme qui a subi le même type de torture. Il n'y a que Jésus, pour lequel on a un souvenir. Là. Il n'y a qu'un seul homme qui a été à la fois crucifié, qui a eu une couronne d'épines, qui a été percé au flanc et qui a été flagellé. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Donc évidemment, pour beaucoup, ce fameux linceul, puis en même temps, il y a aussi son aspect miraculeux, parce que si tu décèdes, je ne pense pas que tu vas imprimer ton visage ou l'image de ton corps dans une pièce de tissu. Oh. Donc, si cette pièce de tissu a conservé l'image, déjà la présence de l'image est une espèce de miracle. Et comme l'image nous montre cet homme, ben cet homme est forcément Jésus de Nazareth, puisque c'est le seul homme de l'histoire dont on a le souvenir qui a connu ce genre de supplice. Le linceul de Turin... Je dis linceul de Turin, on l'appelle aussi parfois le suaire, mais un suaire, c'est plutôt un linge plus petit qu'on sert à essuyer un visage. Si on parle vraiment de suaire, il y a également un suaire que l'on attribue au Christ, mais il se trouve à Oviedo, en Espagne. Dans le cas de Turin, on devrait, même si on l'appelle souvent, un peu par raccourci linguistique, on l'appelle souvent le suaire de Turin, on devrait plutôt l'appeler le linceul de Turin.
Est-ce que les deux se font compétition en disant « Non, c'est nous qui avons le véritable... »
Non, les deux s'accordent à avoir le véritable. C'est-à-dire qu'à Turin, on se dit « Nous, on a le linceul », puis les gens à Oviedo disent « Parfait, mais nous, on a le suaire.
Okay. »
C'est donc le linge qui a été mis sur le visage du Christ.
Ah, d'accord.
Donc, quoi qu'il en soit, c'est une histoire qui est en même temps aussi très, très chaotique. Hein. On n'a pas de connaissance de l'existence. Puis là, je te parle en tant qu'historien. Là, hein, puis pas, il n'y a pas question de foi là-dedans, puis d'extravagance. L'histoire du linceul nous est connue depuis 1350. Hein. Il apparaît là, aux alentours de 1350 à Liry, qui est une petite commune à l'est de Paris. Et on nous le présente comme étant le linge qui a servi à inhumer le Christ. Et là, évidemment, ça attire la dévotion, ça attire les fidèles. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. D'ailleurs, une trentaine d'années plus tard, l'évêque de Troyes, Pierre Darcy, va envoyer une lettre au pape en disant « Ça, c'était écœurant. C'était écœurant que ces gens-là montrent ce morceau de tissu-là en disant que c'est le linceul qui a servi à recouvrir le Christ parce qu'il y a une image dessus. » Il dit « Ça, c'est une fraude. » Puis il dit « Je connais même le peintre qui l'a fait. »
OK.
mais il ne dit pas c'est quoi le nom du peintre. On aurait bien voulu qu'il le donne. On aurait eu enfin une solution à l'histoire, mais il dit « je connais l'artiste qui est derrière ça ». Mais il ne le donne pas.
Il ne dévoile pas ses sources.
Oui, il ne dévoile pas ses sources. C'est son objectif premier, hein, c'est un peu un détail qui mentionne ça, parce que son véritable souhait, c'est de faire retirer de l'exposition au public le linceul. Parce que les gens ont déserté la grande capitale du diocèse, qui est la ville de Troyes, et ils vont à Lirée pour voir le fameux linceul. Et quand ils font des donations, des oboles, ils le font à la petite commune de Lirée plutôt que de le faire à la ville de Troyes. Donc, il y a un exode de la monnaie.
Ouais.
Un exode de la monnaie.
Voilà, l'argent partir en fumée.
Ouais, et Pierre Darcy n'aime pas beaucoup ça. T'sais. Fait que, bon, il y a deux choix. Ou bien il fait une exposition en disant « Moi, j'ai des sandales de Jésus » pour essayer d'attirer à nouveau les fidèles. Ou bien il va faire interdire l'exposition du linceul. Et c'est ce qu'il tente de faire auprès du pape. Mais le pape ne se laisse pas embarquer dans cette histoire-là. Ce qu'il dit, le pape, il c'est un peu tranché un nœud gordien. Là. Il ménage la chèvre et le chou. Il dit « OK ». Il dit « Je ne les interdirai pas de présenter le linceul, mais je vais demander aux gens sur place, on ne mettra pas une police à la porte, là, mais on va demander aux gens à la porte de dire que c'est une icône qui représente Jésus, une image de Jésus, sans dire forcément que c'est l'authentique linceul. Tu comprends? Donc, on joue un peu sur les mots, ce qui ne changera pas grand-chose. Finalement, les gens qui arrivent à la porte eux-mêmes, si quelqu'un dit « Attends, avant de rentrer, là, je vais te le dire. Le véritable linceul que tu vas voir à l'intérieur n'est pas vraiment le véritable linceul. C'est le véritable linceul que je dois te présenter comme étant une icône. » Puis là, les gens disent « OK, parfait, merci, ils font leur obole, puis ils rentrent dans l'église. »
Ça ne veut plus rien dire, en plus.
Non, c'est complètement ridicule, ça ne veut rien dire. Mais bref, son histoire nous est connue à partir de là. Donc, on peut suivre depuis ce moment, depuis grosso modo 1355, 1357, on peut suivre pratiquement jour pour jour l'histoire du linceul jusqu'à aujourd'hui. On sait il appartient à qui, on sait il est entre les mains de qui, à quel endroit il se trouve à tel ou tel moment. À un moment donné, d'ailleurs, au milieu du 16e siècle, dans la première moitié du 16e siècle, c'est en 1536, il est dans une chapelle qui appartient au comte de Savoie. Dans le grand domaine du comte de Savoie, il y a une chapelle ducale, et le linceul a été racheté. Il a passé en plusieurs mains, mais il a été racheté notamment par le duc de Savoie, qui va donner d'ailleurs la famille gouvernante royale d'Italie éventuellement. Donc le duc de Savoie a le linceul, il l'a dans un reliquaire, et il est placé dans la petite chapelle ducale. Et à ce moment-là, il y a un incendie dans la chapelle ducale, et le linceul risque à ce moment-là, a failli passer à deux doigts de partir en fumée, hein, parce que c'était en 1534 ou 1536, mais peu importe, à deux ans de différence, on ne se disputera pas. Là. Mais il y a une goutte de plomb du reliquaire qui est tombée sur le tissu.
Ouf.
Et qui, un peu, le tissu était plié, un peu comme quand on fait des jeux d'enfants, on replie une feuille de papier, puis on découpe un bonhomme, puis quand on le déplie, ça fait une ribambelle. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé. Comme le tissu était enroulé, la goutte de plomb qui est tombée sur le linceul l'a traversé de part en part. C'est presque, je ne veux pas tomber dans le religieux, là, mais c'est presque un miracle que l'image n'ait pas été endommagée au-delà de ça. Hein. Vraiment, la goutte est tombée à peu près au bon endroit. Là, un peu endommagée l'image au niveau des bras, là, puis au niveau des jambes, mais elle n'a pas endommagé le visage, et les parties les plus importantes de l'image n'ont pas été touchées. Donc, on a sorti le linceul à ce moment-là. Les parties qui avaient été endommagées par l'incendie ont été réparées. On a confié le linceul à des sœurs Clarisse qui ont pris une nappe d'église et ont découpé des patchs. Puis ils ont patché le linceul.
OK, ils ont fait du patchwork avec.
Oui, c'est ça. Puis après ça, ben, comme il était souvent exhibé devant le public, on avait commencé à noter également que les tissus commençaient à se défaire sur les côtés. Donc, on a coud derrière le linceul un voile, un peu comme un velours rouge. Mais plutôt, je dis du velours, mais ce serait plutôt de la soie, une soie rouge,
okay,
qu'on appelle le voile d'Hollande. Donc, il est un peu doublé, notre linceul. Et aujourd'hui, puis après ça, donc, les ducs de Savoie ont cédé, il est devenu, bon, dans, il est demeuré dans la famille de Savoie jusqu'au roi Umberto V dans les années 80, qui, lui, l'a cédé éventuellement à l'Église. Et il faut le dire, depuis le 18e siècle, il est conservé dans la... Au départ, la cathédrale était le conservateur. Aujourd'hui, ils en sont pratiquement les propriétaires du linceul, qui est toujours conservé là, dans un endroit très spécial, aménagé pour lui dans la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste de Turin. Cela, c'est la petite histoire du linceul. Je sais que des gens qui tiennent beaucoup, qui croient en l'authenticité du linceul, puis des gens qui sont les défenseurs du linceul, se sont amusés parfois à faire des espèces de raccourcis de l'histoire en disant « Ouais, mais c'est vrai qu'on le connaît sous sa forme actuelle en 1355, 1357, mais il y avait quelque part au 2e ou au 3e siècle une légende d'un linge qui avait le visage de Jésus qui circulait quelque part en Turquie, à Édesse. C'était peut-être le linceul. » Tu peux faire tous les raccourcis que tu veux avec ça, là. Mais le fait demeure que le linceul, tel qu'on le connaît, donc cette longue pièce de lin qui montre à la fois le visage, l'aspect dorsal et ventral du personnage, tel qu'on le voit là, n'a jamais été vu ou décrit avant 1350.
Okay.
Donc, t'as beau me sortir tout ce que tu voudras, des linges, des guenilles, du Moyen-Âge, pas du haut Moyen-Âge, puis les associer au linceul, c'est libre à toi. Mais tel qu'on le connaît, il date de cette époque-là. Et... il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites sur le linceul. C'est probablement la relique sainte sur laquelle on s'est le plus penché pour essayer de déterminer son authenticité. Et pour je le dis sans réserve, je l'ai vu, le linceul de Turin, quand on tournait à la recherche des reliques saintes. Et c'est probablement l'une des choses les plus spectaculaires que j'ai vues de toute ma vie. Quand on rentre dans la cathédrale de Turin et on voit le linceul avec l'image de cet homme dessus, et plus tu t'approches, moins que tu vois l'homme, mais plus tu recules, mieux tu le vois. Et ensuite de ça, on sait qu'il y a des images, que l'image correspond non seulement à des aspects photographiques, mais également à des aspects 3D. Donc, si on se dit que c'est une fraude du Moyen-Âge, on s'interroge comment le faussaire aurait-il pu imaginer des concepts de 3D ou de photographie, alors que... Il est un artisan quelque part au milieu du 14e siècle.
Ouais.
C'est, bon, ça paraît un peu étrange. Donc, c'est la relique sainte qui a fait l'objet d'un plus grand nombre de recherches. Et l'une des recherches qui était venue un peu briser le dos des tenants du suaire, de son authenticité, c'est une analyse qui a été faite en 1988. L'Église avait autorisé une analyse au carbone 14, une datation au carbone 14 sur le linceul de Turin. Donc, pour ce faire, on a coupé sur le bord du linceul, on a coupé un petit morceau de tissu et on l'a soumis à trois universités, une en Angleterre, une aux États-Unis et une autre en Suisse, avec d'autres tissus également pour des mesures comparatives, hein, des tests en double aveugle. Chaque université avait reçu un morceau du linceul et deux morceaux de tissu ancien, un datant comme d'avant Jésus-Christ et un autre datant du 4e ou 5e siècle. Mais aucune université ne savait quel était l'échantillon du linceul, quel était l'échantillon du 2e siècle avant Jésus et quel était l'échantillon du 6e siècle. Hein. Tout ça a été fait à l'aveugle.
Okay.
Seuls les responsables de l'analyse, donc l'Église, avaient une liste qui déterminait quelle était l'origine de chacun de ces tissus. Et les scientifiques ont donc procédé aux analyses. Et les analyses se sont révélées bonnes pour tous pour les tissus qu'on connaissait, les dates, ils ont tombé pile-poil dessus. Donc, il n'y a pas de raison de croire que lorsqu'ils analysent le linceul, il soit complètement dans le champ. Tu comprends-tu, je veux dire?
Ça serait bizarre que ce soit juste pour celui-là.
Oui, c'est ça. T'sais, toutes les universités, là, ils ont tous découvert qu'il y avait un tissu qui datait de 2 siècles avant Jésus-Christ. Ça, ils sont tombés pile dessus à 10 ans près. Ils sont tous tombés pile sur le fait qu'il y avait un tissu qui datait du 4e siècle à 10 ans près. Et ils sont tous arrivés à la conclusion que le morceau du linceul de Turin datait quelque part entre 1260 et 1390. Donc, il ne pouvait être qu'une fraude médiévale.
Oh mon Dieu!
Mais on va faire une pause et je vais te dire là où on en est avec ça. C'était l'objet de l'article du Newsweek, une nouvelle étude qui vient remettre ça en question.
De retour dans quelques minutes, ici même à Radio X.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour dans les radios X-Files, alors qu'on était laissé en plein suspense par notre cher Christian, que dit la nouvelle étude sur le linceul de Turin?
Ben voilà, on avait une première étude qui avait été menée en 2022, donc il y a 2 ans, par un groupe de chercheurs italiens de l'Institut de cristallographie du Conseil national de la recherche. Et eux, ils avaient utilisé 5 petits bouts de tissu qui provenaient du linceul de Turin. Et ils ont utilisé une technique qui n'est pas destructive, qui est une technique, une nouvelle technique qui mesure en fait la dégradation de la cellulose du lin, qui n'endommage pas le tissu. Et cette technique-là, elle est toute récente. On l'appelle maintenant la technique de datation au rayon X. Donc, okay. Ils ont utilisé cette technique d'abord une première fois en 2022 sur les échantillons du linceul de Turin. Et ils étaient arrivés à la conclusion que, contrairement aux analyses du carbone 14, que le linceul était beaucoup plus ancien que semblaient donner les analyses au carbone 14. Comment expliquer que le carbone 14 ait donné des bonnes dates pour les autres tissus et pas celui du linceul de Turin? Ben, ils avancent toutes sortes d'hypothèses. J'avoue que c'est peut-être un peu parfois tiré par les cheveux, mais néanmoins, leur nouvelle étude en 2022 disent, ben voilà, nous, on a fait cette étude et elle nous donne comme date à peu près le 1er siècle qui correspond à la date, justement, de la mise à mort de Jésus. Évidemment, ils ne confirment pas que le linceul de Turin montre l'image de Jésus, mais ils disent le tissu date de la bonne époque. Donc, comment je pourrais dire, éliminer ou écarter le linceul de Turin ou l'énigme du linceul de Turin sur la simple foi de l'analyse au carbone 14 de 1988 devrait être revu et corrigé. Mais évidemment, on avait dit, oui, mais vous n'aviez pas d'éléments d'échantillonnage pour faire un talonnage autour de l'analyse qui a été faite en 2022. Et là, voilà que les mêmes chercheurs ont refait une seconde analyse, une nouvelle datation au rayon X en utilisant exactement la même technique. Et cette fois-là, ils ont utilisé comme mesure étalon un tissu qu'ils avaient, un tissu qui datait du 1er siècle de Messada. Messada, pour les gens, ça résonne peut-être quelque chose. Ça a été une forteresse où les Hébreux s'étaient réfugiés là, pour essayer de résister à l'envahisseur romain.
Okay.
Et donc, on a un tissu du 1er siècle qui remonte à l'époque de Messada. Et là, ils ont donc fait l'analyse des tissus, des morceaux de tissu du linceul de Turin. Et également en comparaison avec ceux du tissu de Messada, et ils sont arrivés pour le tissu de Messada avec le 1er siècle, donc la date à laquelle on devait s'attendre, et ils ont obtenu également le même résultat que précédemment avec le linceul de Turin, c'est-à-dire aussi le 1er siècle après Jésus-Christ. Donc encore une fois, après 2 analyses, en utilisant la datation au rayon X, ils arrivent à la conclusion que le linceul date de l'époque du Christ. Évidemment, pour les gens qui ont la foi, pour les gens qui croient que le linceul est authentique, évidemment, ça ravive leur intérêt pour la relique. Alors que depuis 1988, dès qu'on abordait la question du linceul de Turin, tu peux être sûr qu'il y avait un sceptique dans la salle pour rappeler que l'analyse au carbone 14 en 88 nous avait dit que c'était une fraude.
Mais est-ce qu'on a refait une analyse au carbone 14? Parce
non.
que c'est ça qui était inquiétant.
Non.
Tu sais pourquoi?
Ouais, l'analyse au carbone 14 n'a pas été refaite. Écoute, on pourrait faire des émissions sur le linceul. Mais d'ailleurs, en passant, pendant la pause, je suis allé voir l'incendie, la Chambéry qui avait endommagé le linceul. C'est en 1532. J'avais dit 1534,
ah, okay.
C'était 1532. Donc, cela étant dit, l'analyse au carbone 14, pourquoi est-ce que cette analyse-là, pourquoi est-ce que les 2 autres tissus qui avaient servi d'étalon auraient pu fonctionner? Alors, on a eu les bonnes dates et pour le linceul, ça ne fonctionne pas. Ben là, les arguments avancés, bon, il y en a qui sont un peu fantaisistes. Là. On aurait utilisé un morceau d'une pièce de rapiéçage pour faire l'analyse au carbone 14. Mais non, ça c'est niaiseux. Là. Quand les gens ont découpé le linceul pour faire l'analyse au carbone 14, ça a été fait en présence de spécialistes. Les gens, les universitaires qui représentaient les universités étaient présents. Ça a été filmé. Et quand on le voit, le linceul, quand tu es devant le linceul, tu vois l'endroit où ils l'ont coupé. Là. Tu vois, il y en a le coin supérieur gauche, là, tu vois qu'il manque une strip de bacon. Là. C'est là qu'ils ont pris le dessus. Ça, il n'y a pas de doute. Là. C'est bel et bien linceul qu'on a analysé. Mais là où il pourrait y avoir un contexte, puis c'est amusant parce que, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais moi, j'ai rencontré il y a quelques années à Londres un type qui s'appelle Christopher Ramsey. Christopher Ramsey était le responsable de l'analyse au carbone 14 pour l'Université d'Oxford. C'était lui qui était le responsable. Et quand je lui ai parlé de la controverse autour des échantillonnages, lui-même a avoué que ça n'a peut-être pas été fait comme on aurait voulu. Et là, je suis un peu tombé des nues. Et là, il m'expliquait que, dans le fond, là, eux, ils n'auraient pas souhaité prendre ce morceau-là, parce que le morceau de tissu qui a été utilisé vient du pourtour du linceul. Pendant des siècles, quand le linceul était exhibé devant le public, les moines ou les gens, les bénévoles qui tenaient le linceul pour le montrer aux gens, ils le tenaient par le pourtour. Hein, c'est un peu comme toi, si tu exhibes une nappe ou une toile ou un drapeau, tu le tiens par le pourtour. Donc, l'endroit le plus contaminé par la sueur, la graisse, le sébum des mains, c'est le contour.
Ouais.
Or, le morceau de tissu qu'ils ont utilisé, c'est un morceau du contour. Ça va pas bien. Là. Ils ont utilisé le morceau de tissu le plus contaminé du linceul.
En même temps, tu veux aller couper en plein milieu? Tu veux
non,
pas faire ça,
tu
ça
veux
c'est
pas,
un sacrilège? Tu veux pas aller couper dans...
Mais en même temps, tu as tout à fait raison. En 1988, la technique au carbone 14 demandait une certaine quantité de tissu et elle était destructive. Aujourd'hui, on pourrait refaire une analyse au carbone 14 en utilisant seulement quelques fibres. Mais à l'époque, on avait besoin d'un bon morceau de tissu. Fait que tu comprends qu'on a dit on n'ira pas couper dans le milieu de la toile. C'est clair. Et ensuite de ça, un des éléments qu'on avait sous-estimé, c'est justement ce fameux incendie de 1532, lorsque le sueur était enfermé dans son reliquaire. Lorsque la goutte de plomb a brûlé le linceul s'est retrouvé dans un environnement qui était saturé au carbone. Donc, est-ce que cette saturation au carbone a pu contaminer le linceul et, quelques siècles plus tard, au moment de l'analyse, a pu tromper les scientifiques? Honnêtement, quand j'ai parlé de ça avec Christopher Ramsey, il m'a avoué, je l'ai sur bande vidéo, là,
okay.
Il m'avoue que l'analyse n'a pas été faite comme il aurait souhaité, pas dans les règles de l'art. Et il admet, il dit, on est prêt... Il dit, je pense que tous les scientifiques qui ont travaillé sur le projet, on est prêt à admettre qu'il peut y avoir une erreur de quelques siècles en amont. Bon, pour Laval, il ne peut pas en avoir parce qu'on sait à quelle date il apparaît. Donc, c'est sûr qu'en 1555, il existe. Mais aurait-il pu exister avant? Hein? Eux disent, pas avant 1260. Christopher Ramsey me dit, 1260, là, je m'attends un bémol là-dessus. On pourrait peut-être reculer jusqu'au 9e ou 8e siècle, mais pas 2000 ans. Tu comprends, là, il est catégorique. Si tu me dis qu'on a fait une erreur de 200 ans ou 300 ans, je ne m'astinerai pas avec toi. Mais si tu me dis qu'on a fait une erreur de 1300 ans, ça voudrait dire qu'il y avait plus de carbone qu'on avait dessus. Là. C'est comme pas vraisemblable. Donc, le débat n'est pas clos. Mais tu as tout à fait raison. L'idéal, ce serait de refaire une analyse au carbone 14. On pourrait le refaire avec quelques brins de tissu. Mais en même temps, l'Église n'est pas intéressée par ça.
Non, parce que là, en plus, la dernière étude, je mets mon petit chapeau d'aluminium, Christian, mais ça fit avec le narratif, là.
Oui, exactement. Ça fit avec le narratif. Et l'Église, là, elle, là, dans le fond, non seulement ça fit avec le narratif, mais on a comme redoré le linceul de
voilà.
Tu comprends? Parce que quand on l'expose très rarement, lors d'événements très précieux, très spéciaux, comme l'arrivée d'un nouveau pape, par exemple, ou quelque chose de spectaculaire, le mariage d'une famille importante d'Italie, famille régnante, etc., on va l'exposer, ou on l'expose pour les générations à peu près une fois toutes les 20 ans.
Okay.
Le reste du temps, il est conservé dans son reliquaire puis on n'y a pas accès. Donc, à chaque fois que le linceul est exhibé, on attire sur place des millions de fidèles. Hein, la dernière fois qu'on l'a exhibé, le linceul, là, c'était grosso modo, je pense, en 2010 ou 2012, ça a attiré plus de 4 millions de visiteurs. Donc, 4 millions de visiteurs qui font la file là, pour pouvoir, pendant une semaine, défiler et voir le fameux linceul. Et ça apporte des sous, tu comprends? Et on ne veut pas perdre ça. L'analyse au carbone 14 de 1988 avait donné était un peu comme un chien d'un jeu de quilles. Hein? Ça avait un peu comme brisé le mythe. Là, les gens allaient là, au lieu de donner 10 piastres, ils en donnaient 5. Parce qu'ils se disaient, il n'est peut-être pas vrai, c'est peut-être une fraude. Tu comprends? Ils étaient moins tentés de donner. T'sais? Et là, comme tu dis si bien, la nouvelle analyse, elle fit avec le narratif et elle nous le remet sur ses patins. Fait que là, c'est waouh, le linceul, c'est merveilleux. Et en même temps, d'un autre côté, l'Église, elle n'est pas intéressée par le culte des reliques. Ça, c'est très important. L'Église voudrait bien, hein, soyons honnêtes, l'Église voudrait bien que le linceul de Turin soit authentique. Mais en même temps, l'Église, son discours, et on ne veut pas que les gens aient la foi parce qu'il y a une relique. Tu Tu comprends?
Okay.
On veut que la foi soit la foi tout court. C'est pas parce que tu as une guenille avec la face de Jésus, un clou ou un morceau de croix. On veut pas que ce soit ça qui alimente ta foi. On veut que ta foi soit la foi spirituelle. Et si la relique vient ajouter à ta foi, tant mieux, mais on ne veut pas que la foi s'appuie sur des reliques.
Et ça, cultivée par le mystère aussi.
Voilà, l'Église a toujours été catégorique avec ça. Mais en même temps, il ne faut pas se le cacher, hein? On n'a à peu près aucun élément qui nous prouve l'historicité de Jésus. On en a déjà parlé ensemble.
Ouais. Est-ce qu'il y avait Jésus historique?
Il y a un Jésus historique, mais qui était-il cet individu? À part le fait qu'il était un rabbin, puis visiblement il semblait drainer des gens autour de lui. Mais qu'est-ce que l'on sait de lui? Qu'est-ce que l'on a de lui? On n'a même pas un écrit de sa main. Pas étonnant que certains historiens, une minorité bien sûr, 5 à 8% des historiens vont jusqu'à douter de l'existence du personnage. Mais ils ont un peu raison, quelque part. On n'a strictement rien. Le linceul de Turin, s'il devait être authentique, non seulement prouverait-il l'existence historique du personnage, mais il prouverait aussi sa divinité. Parce qu'il y a quelque chose d'anormal dans le linceul. Le linceul n'est pas une simple guenille avec une image dessus. Il y a, comme je l'ai mentionné, des propriétés de 3D et des propriétés photographiques. Et ça, peu importe où on se place sur l'échiquier, que l'on soit un croyant ou un sceptique, personne, je le dis bien là, personne n'a jamais réussi à reproduire ça. Aucun.
C'est ça qui est fascinant.
On a tout essayé. Là, les sceptiques, ah ouais, on a pu faire une peinture sur un... On a fait une tête en plâtre. Non, non. Alors, si je te mets une guenille d'en face, là, Camille, là, puis avec la peinture, là, je te tapote les oreilles puis le nez, puis etc. Mais que je t'enlève la guenille de la face, là, je peux-tu te dire que tu vas avoir les oreilles de chaque côté du visage?
Ouais.
C'est pas ça qu'on voit sur le linceul. Le linceul a un effet de profondeur. Plus on s'éloigne des arêtes du corps, moins l'image est précise. Et si on fait comme une espèce de négatif à ça, ben on se retrouve avec une forme d'hologramme. Comment un individu qui n'avait aucune idée, on est des siècles avant la notion de la photographie, des siècles avant la notion du 3D, aurait pu réussir à reproduire un élément comme le linceul de Turin? La seule chose jusqu'à date que les scientifiques ont proposé, on n'en sort pas, le linceul de Turin, c'est une photo. C'est ça, c'est une photo. Comment quelqu'un aurait pris une photo en 1530 ou en 1350? Le seul moyen, il y a des scientifiques qui ont dit, bon, OK, il ne faut pas minimiser l'imagination de ces gens-là,
ouais,
c'est
parce
vrai.
Que c'est comme ça qu'on a innové. Hein,
Oui, mais il faut quand même se dire que l'artiste qui a fait le linceul, un chef-d'œuvre, il ne fait qu'une seule œuvre. On n'a jamais rien de retrouvé dans l'histoire qui se ressemble de près ou de loin au linceul. Donc, s'il a fait une œuvre, il a découvert cette technique-là, il a fait le linceul, puis après ça, il a brûlé son livre. Tu comprends? On n'a pas rien trouvé de ça. La seule façon dont des scientifiques sont arrivés à reproduire une image qui était semblable au linceul, c'est en trempant un long tissu, une grande pièce de tissu qu'ils ont trempé dans l'urine. Et ensuite de ça, ils ont placé une statue de plâtre, comme devant le linge ou derrière le linge, ils l'ont exposé au soleil pendant plusieurs jours. Et le tissu qui était couvert d'urine, bien, il y avait des composantes dans l'urine qui ont eu un peu le même effet que le sel d'argent, et peu à peu, une image fantôme est apparue sur le tissu.
Mais c'est vraiment louche comme approche.
Ouais, le gars, il l'a jamais fait, mais hey, moi, on m'a pissé sa guenille ici, là. On est tendu au soleil, ça va marcher. T'sais. C'est comme un peu bizarre. Hein?
Et la démarche scientifique pour se rendre à ce liquide-là, je sais pas quoi ils ont pensé.
Quand j'ai entendu cette histoire-là, ça me fait penser à un moment donné, il y a toute cette controverse, les gens disent, on n'a pas été sur la Lune, puis c'est une fraude, c'est tourné dans un cinéma. Puis il y a à un moment donné, un expert en images, je dis, écoutez, là, c'est parce que vous ne sais rien à comment ça fonctionnait, la caméra, le cinéma de l'époque. Si j'avais voulu refaire des scènes là, comme les hommes sur la Lune qui se déplacent, puis le sable qui se soulève de cette façon-là, ou des longues séquences de 20-30 minutes en état d'apesanteur, ben, ça aurait été plus compliqué de truquer l'image que d'envoyer des gars sur la Lune.
Ouais. À l'époque, c'est drôle à dire. Là,
soyons
mais
même, là, ça aurait été plus compliqué de truquer les images que d'envoyer les gosses à la Lune. Et là, à un moment donné, c'est quand j'entendais les experts dire « Ouais, mais si on avait couvert un tissu d'urine pour aller mettre une statue. » Là, tu dis, ouais, c'est peut-être plus simple de croire qu'il y avait un gars quelque part, là, il y a 2000 ans, qui a laissé son image dans une guenille, bon, je sais pas comment, que d'imaginer ça. Là,
sinon, il faut trouver qui a pissé sur Jésus. Là, puis ça,
ouais,
c'est un peu insultant.
C'est un peu... Mais en même temps, C'est fascinant. Et moi, je le dis, je suis un athée convaincu et je ne crois pas en la divinité de Jésus. Je crois bien qu'il y a eu un personnage historique, mais je ne crois pas en sa divinité. Mais j'avoue que quand je vois le linceul de Turin, je ne peux pas m'empêcher de me creuser le ciboulot en disant « Mais tabarnouche, comment le gars a fait ça? »
Oui, il te laisse comment, Christian, ce linceul-là? Comment tu te situes où avec, à la lueur de ce que tu nous as raconté, la nouvelle étude, les rencontres que tu as faites?
Moi, je me situe dans le gars qui ne le sait pas.
OK.
Tu sais, moi, je regarde ça, je dis, je ne sais pas. Il y a comme une résistance en moi qui me dit que ça ne peut pas être authentique. Et là, je me dis, il y a sûrement une solution qu'on n'a pas envisagée. Hein? Et je suis dans l'attente de cette solution-là parce que je n'en ai pas et je préfère ne pas en avancer une qui serait, à mon avis, tout à fait ridicule. Tout seul, puis c'est un sujet que je connais bien, c'est un sujet que je suis très avare de toute information. Et jusqu'à maintenant, j'ai lu à peu près tous les ouvrages. Je l'ai vu, j'ai fait un documentaire sur le linceul de Turin. J'ai rencontré les gens qui sont impliqués de très près, à la fois dans l'étude et sa conservation. J'ai lu tous les ouvrages qui ont été faits écrits par les pour, tous les ouvrages qui ont été écrits par les contre. Et je n'ai dégagé de toute cette information-là aucune hypothèse vraisemblable. Tu sais, je me dis, ouais, c'est une affaire étrange. Tu sais. Je me trouve un peu dans la situation du policier. Hein? Je pourrais, la meilleure comparaison, c'est le policier qui est devant une fraude. Il sait qu'il y a eu fraude. Il y a un faux tableau. Là. Il y a un faux tableau entre les mains d'un faux Da Vinci. Là. Il sait qu'il y a eu une fraude. La fraude, c'est le tableau. Il connaît l'artiste qui a fait la fraude. Hein? Il l'a pogné avec son pinceau. Mais il ne sait pas comment l'artiste s'y est pris. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le cas du linceul de Turin, dans mon fort intérieur, je suis persuadé que c'est une fraude.
Mais on ne sait pas comment.
Mais je ne sais pas comment le faussaire s'y est pris pour la produire. Et devant cet aspect un peu de vide, parce que ça ne nous amène à rien, c'est un vide, ben je comprends que des gens vont préférer choisir l'hypothèse de la fraude comme moi je le fais, et d'autres vont choisir l'hypothèse de l'authenticité du linceul, ce que je respecte aussi, parce qu'il n'y a pas... C'est une chose est sûre, et ça, je tiens à être très précis là-dessus, toutes, mais vraiment toutes les explications qu'ont proposées les sceptiques pour nous dire comment le linceul avait été fabriqué sont complètement dans le champ. On parlait à un moment donné de la peinture, de l'ocre rouge. Ça, là, ça convainc que les ignorants. Ça, c'est vraiment, je trouve ça même un peu méprisant. Là. Sortir ces histoires-là, là, tu ne réussis qu'à convaincre des ignorants. Dès que tu connais le linceul, tu connais son histoire, tu connais ses propriétés particulières, c'est clair que ce qu'on nous a proposé comme technique, ce que les sceptiques nous proposent comme technique, ça ne tient pas la route. Alors, je ne sais pas comment le faussaire s'y est pris, même si je reste convaincu qu'il s'agit certainement d'une fraude, mais j'ignore comment on s'y est pris.
C'est une de celles dans les énigmes historiques les plus fortes, là, on s'entend. Là. Si tu avais la classifier, tu la mettrais-tu dans les premières?
Oui, c'est dans le cas des grandes énigmes historiques, le linceul de Turin est pour moi l'une des cinq plus grandes énigmes de l'histoire, pour laquelle j'ai strictement aucune idée comment on s'y est pris. Puis, pas à dire, j'ai tourné à la recherche des reliques saintes, moi et toute l'équipe, on s'est penché à quelques reprises sur le linceul pour essayer de trouver une solution. C'est-à-dire, OK, est-ce qu'on aurait pu le faire comme ça ou comme ça? Puis il y avait des gens autour de moi qui étaient des spécialistes de l'optique, il y avait des gens qui étaient des caméramans, des photographes qui connaissaient bien le domaine de la photo, et aucun d'entre eux n'a réussi à reproduire ça. C'est comme zéro.
On reste mystifié ce soir. Ben Christian, c'est tout le temps qu'on avait. Je sais qu'il te restait un dernier sujet. Est-ce qu'on le reporte à une autre fois?
Ben oui, on va le reporter une autre fois. C'est un sujet intéressant. On reste dans le religieux. C'était une sœur qui ne se décompose pas. Une nonne tellement virtueuse.
Les corps incorruptibles.
Incorruptibles. Ah! Donc, on va reparler de ça lors d'une prochaine émission.
Super. Vendredi prochain, ce sera une question d'auditeur dans le nouveau concept qu'on a de Radio X-Faires. Je te souhaite un excellent week-end, Christian. Et lundi soir, 22h, Suspect X. Et on s'en va dans des histoires de loups-garous avec Roma Santa.
Manuel Blanco Roma Santa. L'un de mes tueurs favoris. Je dirais dans ma catégorie là, de Jack l'Éventreur au sommet. Là. Puis après ça, dans le deuxième, troisième, là, Roma Santa se tient dans mon peloton de tête.
C'est la beauté de ce podcast-là. On se fait plaisir avec des histoires qu'on adore. Donc, j'ai très hâte à lundi, Christian. Bon week-end et aux auditeurs également.
Parfait. Bon week-end à toi. Ciao.
Bye.